Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête avec une grande pionnière. Elle a créé plusieurs sociétés. C'est la première femme à avoir créé tout simplement en France une banque au XXIe siècle. Elle a créé Litchi puis Mangopay. Elle s'est aussi relancée dans l'entrepreneuriat avec Resilience Care. Elle est aussi à l'origine de la loi sur la paternité de un mois. Et nous aurons donc le plaisir de recevoir Céline Lazorte.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec cette semaine deux entrepreneurs, deux femmes, Raffaella Nolo, fondatrice de Yacon & Co. et Manon Le Padelec, fondatrice d'Isidore. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ça sera Fred vous répond.
Et tout de suite, on enchaîne avec le tête-à-tête.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Céline Lazorte. Bonjour Céline.
Salut Fred.
Alors, tu es l'une des premières femmes à avoir créé une banque au XXIe siècle, rien que ça, avec Litchi puis Mangopay. Tu es cofondatrice du collectif Sista, de femmes entrepreneurs et investisseurs. Tu es aussi à l'origine de la loi sur le congé paternité de 28 jours. Et tu te relances aujourd'hui dans une nouvelle aventure, dans la santé, avec Resilience Care. On va pouvoir aborder tout ça, tu connais le principe de l'émission. On reprend ton parcours et puis on va chercher un petit peu les émotions, les ressentis derrière tout cela, voir ce qui fait que tu arrives à prendre tes décisions, à te faire une opinion et puis à avancer. Donc, on aura aussi quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ton parcours. Et c'est parti. Alors, donc, on commence par ta naissance à Toulouse en 1982 dans une famille de médecins sur trois générations.
Absolument.
Voilà. Et tu rêvais de quoi, toi, quand tu étais petite ?
Et je rêvais évidemment d'être moi aussi médecin.
Et c'est un rêve ? C'était un rêve fort ? Enfin, c'est-à-dire que...
J'étais baignée là-dedans. C'est vrai que je raconte toujours que mon grand-père m'emmenait, tu vois, le mercredi après-midi dans les sous-sols de l'hôpital et de la fac de médecine pour voir toutes les trouvailles qui traînaient. J'ai le souvenir de voir dans une boîte de formol des siamois. Enfin, voilà, plein de choses comme ça un peu inhabituelles. Et donc, évidemment, je me voyais assez bien dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que mes parents qui avaient probablement s'étaient beaucoup investis dans leur carrière en tant que médecin, enfin chirurgien et cardiologue, avait aussi trouvé la dureté du métier d'être à l'hôpital.
Oui, ton père, il se levait la nuit pour aller faire des opérations.
Oui, en fait, il se levait, il travaillait à l'hôpital. Donc, quand ses patients n'allaient pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève et puis on y va. Donc, il y avait beaucoup de sacrifices aussi, et un sens du devoir et puis un sens du bien commun et du service public très fort, ouais.
Mais alors, par contre, ils t'ont pas encouragé dans cette direction-là, tes parents. Toi, tu voulais être médecin,
ouais,
mais eux,
ouais.
Ils te disaient, bon...
Non, eux, ils m'ont même plutôt dit, c'est hyper contraignant, on ne gagne pas bien sa vie, tu as envie de faire ça. Donc, non, c'est vrai qu'ils m'ont plutôt poussée, comme j'étais passionnée par l'informatique, l'Internet, à aller dans cette voie-là en se disant, ça, c'est sérieux. Et puis, le monde de l'entreprise, c'est pas mal aussi.
Et alors, côté école ? Comment ça s'est passé jusqu'au bac ?
Et côté école, donc j'étais assez mauvaise, ou en tout cas non, mauvaise, je sais pas si c'est le terme, mais j'étais dans les peu mieux faire, tu vois. Peu mieux faire, légèrement arrogante, et puis c'est vrai, on en rigolait ensemble, j'ai eu un bac belote ou tarot, quoi. Donc j'étais pas vraiment hyper assidue,
quoi. Le fameux bac mention TB, mais tarot belote.
C'est exactement, tarot belote, et puis mention repêche aussi, mais enfin j'y suis arrivée, mais c'est vrai que les études n'étaient pas le truc, enfin le côté scolaire qui me passionnait le plus, bien que j'aimais plein de choses, les maths, la littérature, mais le format de l'enseignement m'était pas très adapté. Et puis, donc, j'ai fait deux années de classe prépa, maths sup, maths spé.
Voilà. Donc là, t'es parti, tu partais pour être ingénieur quand même.
À l'EPITA, ouais, exactement.
T'es quand même
ouais.
parti en classe prépa. Et à l'EPITA. Mais ensuite, tu choisis de faire un master de project management à l'Institut d'Internet et Multimédia.
Gestion de projet informatique.
Ouais. Ouais. Et l'informatique, ça a toujours été une passion, donc.
C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée. C'est vrai que J'avais eu assez tôt des ordis chez moi, un Atari, un Macintosh, Internet à l'âge de 14 ans, donc finalement relativement tôt pour
la période. Tu sais monter et démonter un PC ?
Je savais en tout cas à l'époque monter et démonter un PC, tout brancher sur la carte mère, enfin voilà, le ventilateur, j'achetais chez des assembleurs des morceaux pour changer, enfin ça m'amusait quoi.
Tu as utilisé ICQ, AOL, tout ça ?
Évidemment, les forums d'AOL, enfin c'était la découverte de la liberté. C'est Lilaz.
C'est Lilaz.
Et c'est toujours d'ailleurs souvent c'est Lilaz, je pense.
On m'a dit aussi que tu avais un sens du commerce développé et que tu as réussi à troquer un Atari contre deux palmes.
Ouais, c'est vrai que j'avais piqué, je ne dois pas trouver d'autres termes, à ma maman qui travaillait en labo pharmaceutique, des palmes pilotes commerciaux qui leur étaient déployés. Et donc je l'ai troqué au primaire. Et j'avais trouvé un super business parce que ça intéressait plein de gens. Et puis à l'époque, c'était vachement bien. Tu pouvais enregistrer des trucs, faire des opérations. Voilà, bon, ça valait ce que ça valait. Mais et donc j'ai fini évidemment par me faire convoquer par la directrice de l'école qui a dit non, mais c'est pas possible. L'école n'est pas un lieu de troc. Et elle m'avait convoquée. Elle avait convoqué ma maman. Et j'étais terrifiée parce qu'elle était vraiment très en colère. Donc je m'étais dit mais mon Dieu, mais je vais me faire, mais oh là là, mais retourner en sortant de l'école. Et puis ça avait plutôt fait rigoler ma mère.
Alors donc, en parallèle, tu cumules un peu les jobs. Tu rentres en master spécialisé Digital Business Strategy à HEC en 2007. Donc là, c'est vers ce moment-là que tu commences à te diriger vers l'entrepreneuriat. Ça s'est passé comment ?
Alors, en fait, en 2006, donc sur la fin de mon master gestion de projet informatique, je rentre dans une start-up qui s'appelle Aika et qui est dirigée par Gilles Babinet. Et je rentre en tant que chef de projet. Voilà, je m'occupe d'un mix entre product et marketing. Et puis je suis Gilles un peu partout dans ses négociations commerciales, ses interviews. J'ai une sorte de rôle de chief of staff finalement de l'époque.
Gilles, c'est un grand entrepreneur. Et Gilles, c'est grand entrepreneur de l'écosystème.
Hein. Un entrepreneur exceptionnel.
Il a 8 sociétés, il en a revendu 5.
Ouais, absolument.
Et digital champion.
Puis avec beaucoup d'humilité, toujours d'intelligence, de finesse. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à apprendre aux côtés de Gilles. Donc, je travaille un an pour lui. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire ce master spécialisé à HEC. Et Gilles m'avait dit, en fait, c'était un peu le coup de baguette magique au-dessus du berceau. Parce qu'il m'avait dit, mais écoute, tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Tu ne sais juste pas encore quoi. Alors, écoute, fonce. Et puis, si jamais tu ne trouves pas, je te reprendrai dans n'importe laquelle de mes sociétés. Et donc, ça m'avait beaucoup, finalement, déstressée. Parce que moi, j'avais cette idée de vouloir être économiquement indépendante de mes parents. J'avais travaillé pendant quasiment toutes mes études. HEC, je faisais un prêt. Et donc, tout ça me semblait, tu vois, assez des barrières difficiles à passer. Et puis, Gilles, il m'avait poussé vers le chemin.
Donc, tu as donné confiance, en fait. Simplement en te disant, je te reprends, quoi qu'il arrive.
Ah ouais.
Ça t'a permis, en fait, de faire autre chose.
Ouais, non, mais complètement. Il m'a donné un filet de sécurité. Et puis, la petite tape dans le dos qui te donne envie d'y aller. Et c'est vrai que ça m'a donné des ailes. Ouais.
Et c'est comme ça qu'en 2009, tu lances Litchi.
Absolument.
D'où est née l'idée de Litchi ?
Du coup, master en école de commerce, j'arrive, on avait une année, on était des gens un peu partout, ingénieurs, de la fac, et je me dis, tiens, je vais faire un week-end d'intégration pour s'amuser tous ensemble, apprendre à se connaître, faire du sport, boire des bières, et je pars collecter de l'argent auprès de tous mes camarades de promo, et évidemment, comme toute collecte financière, c'était quand même assez pénible, donc je me dis, mais il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs, donc ça, on était en fin 2007, début 2008, il n'y en avait pas, et donc je me suis dit, aux innocents les mains pleines.
Exactement, et donc Stéphanie va pouvoir nous parler de cette aventure.
Exactement, aventure de Litchi qui commence en 2009. La plateforme permet de collecter de l'argent pour financer un cadeau d'anniversaire groupé, un pot de départ, un week-end entre amis ou encore un projet solidaire. Le montant moyen d'une cagnotte, c'est 450 euros. En 2015, Litchi est racheté pour plus de 50 millions d'euros par le crédit mutuel Arkéa qui finalement revend la plateforme au fonds de private equity Advent. Ça, c'était en milieu d'année. Aujourd'hui, Litchi, c'est 18 millions d'utilisateurs dans 150 pays. En tout, 1 milliard d'euros ont été collectés depuis la création de Litchi, donc en 2009.
Alors, vu la réussite, on se dit que tu n'as pas trop eu besoin du filet de sécurité de Gilles Babinette et pas retourné. Tu as dû donc tout apprendre, en fait, y compris le management des équipes, parce que avoir l'idée et créer, c'est déjà compliqué. Après, il faut manager les équipes. Comment ça s'est passé pour toi?
Ouais, bah, c'est un chemin qui s'est fait en grandissant, puisque donc, je suis sortie d'école en 2008. J'ai commencé toute seule à essayer de comprendre comment on construit un projet entrepreneurial, puis comment on lève des fonds, comment on recrute son premier collaborateur et premier stagiaire. Enfin, voilà, toutes les étapes que toi aussi tu as connues. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que tout s'est construit petit à petit, comme finalement un château qui se consolide. Et donc, ça a été Litchi et Mangopé, puisque c'est une spin-off de Litchi, la deuxième société que j'ai créée, entre 2009 et puis 2018, fin 2018, quand je suis sortie de l'opérationnel. Donc, 10 ans d'une vie quand même assez intense.
Et là, voilà. On voit sur la photo, avec y compris Romain, ton partenaire de belote de lycée.
Ouais, ami d'enfance, et qui est aujourd'hui toujours CEO de Mangopé. Et puis là-haut, en haut à gauche, il y a Mathieu, qui est mon cofondateur chez Résilience. On est 4 cofondateurs. Ouais.
Et donc en 2013, tu poursuis puisque tu fondes Mangopé.
Absolument. Alors
ça, c'est un autre service. Ouais. Quelles sont les ambitions de Mangopé à ce moment-là?
Alors, Mangopé, en fait, c'est né de l'idée que, donc spin-off de Litchi, qu'il faut une solution de paiement pour les places de marché, puisqu'elles ont des problématiques spécifiques en termes de paiement, d'encaissement, compte de tiers, que le flux d'argent monétaire est complexe. Et donc, en fait, on a développé ça avec Litchi et on se rend compte qu'on a deux business en un, donc on scinde un peu ça, on extrait la techno, on le met sous forme d'API, donc une sorte de boîte à outils accessible pour les développeurs.
Donc exactement.
Donc une interface qui permet effectivement d'intégrer cette techno-là pour les places de marché, pour pouvoir utiliser un système transactionnel avec beaucoup de fonctionnalités. Donc ça, c'est en 2013. C'est aussi parce qu'on a eu une licence d'établissement bancaire en 2012 qu'on a la possibilité de faire ça. Et en fait, c'est vrai que l'ampleur des places de marché, de la consommation collaborative, fait que Mangopé, le développement, explose.
Et donc, tu as reçu beaucoup de distinctions. Alors, j'ai une liste, évidemment, restreinte, parce que ça ne tiendrait pas sur une seule page. Donc, en 2013, tu es la première sur 100 personnalités du web en France. En 2014, tu es élue femme d'affaires de l'année et tu reçois le prix Veuve Clicquot. En 2016, tu reçois le prix Napoléon de la personnalité féminine innovante de l'année. Est-ce que tu réalisais, quand tu construisais tout ça, que tu étais quand même en train de changer les choses, aussi de créer un rôle modèle et de changer un peu la face de la personnalité, notamment de la femme dans l'entrepreneuriat et dans le secteur bancaire? Est-ce que tu avais ça en tête? Est-ce que tu ressentais? Ou est-ce que
non, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de construire et imaginer des systèmes qui n'existent pas. Donc moi, je suis quelqu'un de créatif et je suis une bâtisseuse. Donc en fait, c'est ça qui me passionne. Tant mieux si ça peut inspirer d'autres jeunes femmes et jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, à entreprendre. Parce que j'ai la conviction que l'entrepreneuriat, c'est un très bel ascenseur social et que ça doit être le reflet de la société civile. Donc, il doit y avoir autant de diversité dans l'entrepreneuriat qu'il y en a chez nos citoyens. Quoi.
Et en tant que bâtisseuse, justement, tu joues ton rôle dans l'écosystème aussi pour quand même aider à le faire évoluer dans le bon sens. En 2015, tu vends Litchi et Mangopé au Crédit Mutuel Arkéa. Et donc là, c'est le départ d'une nouvelle aventure, en fait, au sein de l'écosystème. Et je voulais juste savoir comment tu as vécu cette étape-là, déjà, de vente.
Ouais.
Parce que, en tant qu'entrepreneur, c'est toujours une question. Quand est-ce qu'on transitionne? Est-ce qu'on transitionne ou pas?
J'ai vendu en septembre 2015 et je suis sortie de l'opérationnel, en fait, à la naissance de mon fils, donc en février 2019. Donc, en fait, cette période-là, bon, c'est une période de transition parce qu'en fait, la vie avec un industriel qui est majoritaire, c'est évidemment différent qu'avoir des fonds d'investissement à ses côtés. Mais bon, finalement, c'est une période de transition à laquelle moi, j'étais tout à fait encline à participer puisque je savais que c'était aussi la meilleure façon de faire développer mon projet et ma vision à l'échelle européenne. Donc, voilà. Parfois, j'ai conjugué avec des problématiques qu'un grand groupe a versus celle d'une jeune start-up. Enfin, ça a été, on va dire, une partie assez claire de ma mission une fois que j'avais vendu. C'est vrai, quand je suis sortie en début 2019, ça a été le saut dans le vide, puisque ça faisait plus de 10 ans, 11 ans que j'avais dédié ma vie à Litchi et Mangopé, et que j'étais même, en fait, je me définissais par mon entreprise, je me définissais par le fait d'être entrepreneur. Et donc, je me suis sentie quand même tu vois, j'ai eu la sensation d'enlever ma cape de super-héros et puis de la poser sur les épaules de Romain qui était devenu CEO de Mangopé à ma place et Alix côté Litchi. Et donc de me dire, mais en fait, qui suis-je? Et on se pose ces questions.
Parce que tu as cédé la direction générale aussi à Alix Poulet,
ouais, absolument,
côté Litchi.
Ouais, ouais, on a séparé. C'est vrai que moi, j'avais cette particularité de diriger deux boîtes en même temps. Et en fait, voilà, on a séparé opérationnellement les boîtes, ce qui était plus logique et puis qui permettait aussi un essor de chacune d'elles. Mais donc, c'est vrai que j'ai aussi eu cette sensation un peu de me dire, mais qui suis-je? Parce que si je ne suis pas mon entreprise, alors qu'est-ce qu'il me reste? Et donc, ça a été une phase assez passionnante d'apprendre à se connaître et de comprendre mes forces et évidemment mes faiblesses et ce que j'avais gagné dans ces 11 années d'entrepreneuriat.
Et c'est à ce moment-là aussi, enfin à peu près mêmes années, que tu décides de fonder le collectif Sista,
ouais,
avec Tatiana.
Ouais. Ouais, fin 2018.
Tatiana Jama, d'ailleurs, qu'on a reçue, ouais, dans l'émission il y a quelques semaines. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou dont tu t'es rendu compte, le fait que les femmes et l'entrepreneuriat, enfin les femmes étaient potentiellement traitées différemment dans l'entrepreneuriat au fur et à mesure des années,
ouais,
parce que Sista, donc, c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs.
Ouais.
Alors comment vous avez...
La prise de conscience.
Comment vous avez articulé cette prise de conscience et qu'est-ce que vous avez voulu donner comme ambition à Sista?
Bah, c'est vrai que moi, la première partie de ma vie, tu l'as dit, j'étais entrepreneur, donc j'ai vécu toutes les étapes comme toi, lever des fonds, vendre une boîte. J'ai pas du tout eu conscience qu'il pouvait y avoir un traitement différent parce que j'étais une femme. Et puis ensuite, à partir de 2015, quand j'ai cédé Litchi et Mangopé au groupe Arkéa, j'ai eu la possibilité, du coup, puisque j'avais gagné de l'argent, d'investir dans des projets d'hommes et de femmes. Et moi, j'ai pas fait de différence. Et donc, assez vite, je me suis retrouvée avec une pluralité de profils et à peu près 30% de femmes entrepreneurs dans mon portfolio. Et en échangeant avec ces femmes, j'ai commencé à comprendre, et on a fait le cheminement communément, enfin ensemble avec Tatiana, qu'il y avait de vraies inégalités. Et on s'est dit, mais enfin, c'est pas possible, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et donc, j'ai ouvert un fichier Excel, puisque c'est mon côté, on va dire, ingénieur, et je me suis mis à compter sur les sites internet de tous les fonds d'investissement, combien dans leur portfolio il y avait de femmes financées, d'équipes mixtes financées, et puis d'hommes financés. Et on est arrivé à ce constat terrible qu'il y avait uniquement 2,6% de l'argent du capital risque qui va vers les femmes, à peu près 10% vers les équipes mixtes et donc 88% vers les équipes uniquement masculines, là où il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. Donc il y a un vrai hiatus et on s'est dit, mais c'est pas possible, prenons l'utilité, le biais de la data pour faire changer les choses. Parce que notre combat, il n'est pas ni plaintif ni dans l'empowerment, il est de montrer qu'il y a un système à faire changer et qu'il faut plus d'équité pour plus de justice.
Alors justement, plus d'équité. En 2019, on te demande en tant que présidente de Sista ce qu'il faudrait changer pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes en entreprise, et tu réponds sans hésiter, le congé paternité. Stéphanie?
Et c'est lors d'un événement du Galion Project que vous imaginez à plusieurs le Parental Act pour encourager les entreprises à mettre en place un congé deuxième parent d'un mois minimum avec une prise en charge à 100%. En février 2019, vous publiez une tribune en ce sens dans les pages des Échos. 377 entreprises signent le Parental Act, dont toi, Fred, pour Blablacar. En tout, ça concerne 40 000 salariés. Le 23 septembre 2020, Emmanuel Macron inscrit l'allongement du congé paternité dans la loi. On écoute.
Jusqu'à aujourd'hui, le congé paternité, c'était 14 jours. Avec d'ailleurs beaucoup d'irrégularités selon les secteurs d'activité. 14 jours et ça n'était pas suffisant. Tout le monde le disait, c'était en plus assez inégalitaire. Et donc la décision que nous prenons, elle est simple. Nous allons porter le congé paternité à un mois. Un mois au sein desquels il y aura 7 jours obligatoires pour chaque jeune papa. Alors cette décision, c'est une avancée et elle est liée à votre mobilisation, pour beaucoup d'entre vous, et aussi à tout le travail qui a été fait ces derniers mois.
Alors d'où c'est parti tout ça? Est-ce que tu savais que tu allais changer la loi?
Non, évidemment pas du tout. C'est parti d'une vraie colère, puisqu'effectivement, quand j'ai donné naissance à mon fils, malheureusement, mon compagnon a dû assez vite retourner bosser. Et donc, je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'avais eu une césarienne, donc je n'arrivais pas à me mettre debout. Et donc, je me souviens d'avoir appelé toutes mes copines, maman et entrepreneurs, en me disant, mais en fait, c'est ça d'être mère, mais je me suis fait arnaquer, c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'était assez paradoxal, puisque chez Litchi et Mangopé, j'avais mis en place depuis longtemps un congé paternité ou deuxième parent étant. Donc je me suis dit, mais en fait, pour que cela change fondamentalement, il faut que tout le monde y ait accès. Et c'est vrai que faire un projet de loi, moi je savais même pas comment on faisait, etc. Et donc je me suis dit, mais prenons le biais de la société civile, c'est ce que je connais. Et puis, comme tu le sais, j'ai invité avec mes côtés Thibaut et Isabelle à construire cette idée du parental act et se dire, on fait une tribune, on la publie dans Les Échos, on propose à des entrepreneurs et entrepreneuses de la signer, et puis on verra bien ce que ça fait. Et tu as fait partie de ceux qui tout de suite nous ont dit oui. Et en fait, ça a été un raz-de-marée, puisqu'on a eu d'abord 100 premiers signataires, 105, 103, je me souvenais plus, et puis presque 300 autres qui nous ont rejoints dans les 6 mois, alors que c'était d'ailleurs pire moment, puisque c'était pendant la première vague du Covid. Et ça a été en fait fondamental de pouvoir montrer que si les entreprises et la société civile étaient prêtes à ce changement, étaient capables de le financer, alors ça devait être, ça devait devenir un droit et à la fois un devoir.
Alors, c'est le changement par la société civile. Et justement, toujours pendant cette pandémie, tu fais partie du groupe à l'initiative de Protège ton soignant. Alors, c'est une expérience qui t'a marqué, ça aussi ?
Ah, c'est peut-être l'expérience la plus marquante que j'ai vécue, parce que d'une intensité folle. C'est vrai que mars 2020 arrive. Moi, j'étais donc retraitée, ou en tout cas avec peu de fonctions opérationnelles. Je prenais beaucoup de plaisir à mes engagements associatifs. Et puis, Thomas Clausel a eu cette idée de créer une cagnotte appelée Protège ton soignant. On était 7 entrepreneurs. Je vois Tatiana qui en fait partie, Jonathan Benamou, voilà, Simon Istolainen et d'autres. Et donc, on s'est dit, on va collecter de l'argent, acheter du matériel médical et le livrer aux établissements de santé, hôpitaux ou cliniques privées, enfin tous ceux qui soignent et qui en ont le besoin. Et c'est devenu un mouvement d'une ampleur extraordinaire, parce qu'on s'est retrouvé en quelques semaines à coordonner des efforts de 200 bénévoles. On avait 3 stocks, on a levé 7,4 millions auprès de particuliers, entreprises et fondations, et on a aidé 400 établissements. Et ça a duré de mars jusqu'à juillet. Je pense qu'on bossait honnêtement 15 heures par jour. C'était une folie totale. Moi, je n'avais jamais fait de logistique, jamais de transport. Il fallait participer au pont aérien pour faire venir du matériel, le distribuer aux hôpitaux. Et en fait, la tech a été un enabler fabuleux.
Et alors justement, ce même Thomas Clausel te dit finalement, tu devrais rencontrer Fabrice André. Et là, c'est le début d'une nouvelle rencontre, évidemment, puis une nouvelle aventure derrière.
Ouais. C'est vrai qu'à t'écouter, tout est hyper cohérent. Mais en fait, quand on le vit, on s'en rend pas du tout compte. Et c'est vrai qu'on était tous les deux avec Jonathan Benamou, qui est un entrepreneur et ami dans cette expérience de Protège ton soignant. Et Thomas, qui est hématologue et le fondateur de Hawkin, nous dit, mais vous avez adoré participer à cette aventure associative. Vous avez du temps devant vous. Le monde de la santé est en train d'être transformé grâce à la tech, au digital. Intéressez-vous à l'oncologie. C'est la deuxième maladie et cause de mortalité dans le monde, la première dans les pays occidentaux. 40% des gens auront un cancer. Enfin voilà, les chiffres sont massifs. Ça devient une maladie chronique. On vit 20, 30 ans avec le cancer. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez, je vous mets au défi de rencontrer des oncologues qui s'intéressent à la tech, et notamment Fabrice André, le directeur de la recherche de Gustave Roussy. Et ça a été une rencontre évidemment fondatrice qui a donné naissance à Résilience.
Voilà, c'est là que tu fondes Résilience Care. Tu te lances avec Jonathan Benabou.
Ouais.
D'ailleurs, nous avons une petite question de la part de Jonathan.
Ah non, je te crois pas. Énorme.
Si. Salut Céline, salut Fred. Céline, 2 petites questions pour toi. La première, c'est après 24 mois de travail ensemble, est-ce que tu regrettes d'avoir commencé cette aventure ? Bon, et la vraie question, c'est est-ce que t'en as pas marre d'être une pionnière et de révolutionner à chaque fois de nouvelles industries, la banque, le rôle des femmes dans la société, la manière de soigner le cancer. À très vite à tous les deux et bonne émission.
Trop sympa. C'est assez émouvant, je trouve, de le voir, parce que c'est une aventure qu'on partage et qu'on a créée ensemble. Alors j'en ai moins que marre, au contraire, je suis très heureuse, toi tu le sais, fondée à deux, c'est quand même une aventure extrêmement humaine, riche, passionnante. On est très complémentaires avec Jonathan, j'apprends beaucoup de choses et j'ai le sentiment, c'est ce que je lui ai toujours dit, d'être beaucoup plus libre parce que je suis associée à lui, parce que ça me permet de me concentrer là où je suis la meilleure. Et même chose de son côté là, de son côté à lui, pardon. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir et j'espère que voilà, on a des dizaines d'années devant nous. Et puis sa deuxième question, franchement, est-ce que je me sens une pionnière ? Non, pas du tout. J'essaye de faire changer des choses qui me tiennent à cœur et j'ai la chance de le faire avec des gens que j'estime et que j'apprécie.
Alors tu disais que tu ne pensais jamais remonter une boîte, puis finalement tu vois, tout t'arrive.
Ah, c'est la faute de John, hein. Franchement. Non, non, mais c'est vrai que je l'aurais jamais refait seul parce que j'avais beaucoup souffert de la solitude. Ouais. Alors Romain, évidemment, on en a parlé, m'a rejoint assez vite, mais j'ai toujours eu, et ça n'a rien à voir avec ma relation avec Romain qui était extraordinaire et qui nous a rendus encore plus proches, ce soir je dîne chez lui par exemple, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir moi le sac à dos, tu vois, chargé sur le dos, Romain bossait comme un fou, mais voilà, la cofondation change ce rapport-là, et donc c'est vrai qu'avec John, je me sens, je me dis, bon bah si jamais... voilà, si jamais je défaille, si jamais je suis pas au niveau, si jamais ça... En fait, il y a John, quoi, c'est mon pilier. Et donc ça, c'est quand même assez génial de vivre ça et de le vivre à deux.
Bon, finalement, tu voulais être médecin, quelque part, presque. T'as réussi, t'es presque, voilà, t'es entrepreneur médecin.
T'es né, n'est-ce pas ? Non, mais en fait, il m'a fallu une vie pour comprendre que mon rôle, il était évidemment dans le système de santé, mais il était pas en tant qu'entrepreneur, il était pas en tant que médecin, c'était un mot lapsus, il était en tant qu'entrepreneur au service des patients et des soignants.
Alors pour conclure, j'ai une petite question inattendue.
Ah, de qui donc ?
Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais changer dans la loi aujourd'hui ?
En fait, c'est une bonne question. Et la première idée qui me vient, c'est évidemment plus d'équité entre les hommes et les femmes. Peut-être des quotas dans les COMEX. Peut-être inscrire la loi de l'IVG dans la Constitution. Ça, je crois que ce serait quand même assez fondamental. J'espère que ça va passer au Sénat. C'est quand même un droit qui devrait être inaliénable. Et donc, je crois que ce serait celui-là, s'il en fallait qu'un.
Céline, merci beaucoup pour tout.
Merci Fred.
Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
On continue avec le pitch, la séquence durant laquelle vous pouvez candidater avec aujourd'hui Stéphanie Colo et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Chaque semaine, nous recevons des gens qui créent des sociétés et qui veulent venir nous le présenter lors d'un pitch. Vous pouvez candidater, comme je vous le disais. Il suffit pour ça de soit scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, soit d'aller sur le site de l'émission sur BFM Business. Et cette semaine, donc, Stéphanie.
Et on commence tout de suite. On reçoit notre première pitcheuse ce soir, Raffaella Nolo, la fondatrice de Yacon & Co., du nom de ce super aliment qui se veut une alternative au sucre. Bonjour Raffaella.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. On suivront derrière votre passage des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Vous avez 1 minute 30, top chrono.
À 8 ans, un enfant a consommé plus de sucre que ses grands-parents durant toute leur vie. Et c'est normal parce que le sucre se loge partout. Et précisément dans 74% des aliments qu'on consomme au quotidien dans les supermarchés, y compris les produits salés. Résultat, 500 000 000 de personnes dans le monde sont atteintes du diabète. Et pour les autres, ils ressentent au quotidien, sans le savoir, les symptômes directement reliés à la consommation de sucre, comme par exemple la fatigue chronique, la prise de poids et aussi les problèmes de peau. La solution, on l'a trouvée. Elle s'appelle le yacon, c'est une plante qui vient du Pérou, qui ressemble un petit peu à la patate douce, et quand on extrait son jus et qu'on le concentre, on obtient un sirop qui a un goût de miel, mais sans les effets nocifs du sucre. Pourquoi ? Parce que cette plante est très riche en fibres et très pauvre en sucre simple. Aujourd'hui, on a déjà des milliers de consommateurs qui sont passés à notre solution sans sucre, et on est référencé dans une centaine de magasins bio en France. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'on compte faire à partir de 2023. On est en train de construire la première filière de yacon française. Et on a déjà fait pousser 3000 plants en France en 2022. Et l'année prochaine, on compte multiplier par 10. 30 000 plants vont pousser en France afin de proposer aux Français le premier sucre 100% français et sain.
Merci beaucoup, Raffaella, pour Yacon & Co. Fred, tes questions.
Je ne tiens plus, j'ai envie de goûter. Est-ce que c'est bon ?
Ah ouais, moi aussi.
Bah, c'est la clé de notre produit, c'est que par rapport à d'autres alternatives qui existent aujourd'hui, le sirop yacon est le plus proche du miel. Donc on a vraiment l'impression de consommer quelque chose...
Du bon miel.
Du bon miel, oui, bien sûr, de petits producteurs. On a vraiment l'impression de consommer quelque chose de gourmand et de pas très bon pour la santé, quand en fait, il n'y a quasiment aucun sucre dedans.
Alors ça coûte combien ? Alors, au niveau coût, vous vous situez comment justement par rapport à des produits concurrents?
Alors, pour le moment, on est un produit plutôt premium, parce qu'il est très rare et que pour le moment, les premiers exportateurs sont les Péruviens, donc c'est un produit qui vient de loin et c'est pour ça qu'on le fait pousser en France dès cette année. Pour le moment, on n'est pas autosuffisant, mais d'ici à 2024, on proposera un produit au même prix que le sirop d'agave, qui est notre concurrent principal, donc un produit abordable pour tout le monde.
Comment vous avez découvert le Yacon?
On est trois associés et le troisième est diabétique, qui s'appelle Thierry. Et en fait, il a découvert qu'il avait un diabète il y a une dizaine d'années. Et il a dû se piquer à l'insuline plusieurs fois par jour et prendre beaucoup de médicaments. Et il a décidé de changer avec son médecin traitant sa manière de consommer et notamment supprimer le vrai sucre en le remplaçant par le Yacon, qui à l'époque n'était pas produit par nous, mais par les Péruviens. Et en fait, au bout de quelques années, il a pu totalement arrêter de se piquer à l'insuline. On dit même aujourd'hui qu'il est en rémission de diabète.
Comment est-ce que vous faites pour que le vôtre soit différent? Est-ce qu'il y a un enjeu peut-être de formule? Est-ce que c'est un enjeu de marque? Est-ce que c'est un enjeu de distribution? J'imagine un petit peu tout ça à la fois, mais quel est votre axe?
Notre axe, c'est qu'on est une marque d'abord qui a pour objectif de mettre en lumière ce produit. Aujourd'hui, il n'y a aucune autre marque vraiment très connue qui l'a mis en lumière, l'a pris un peu sous son aile. Et notre vrai axe, c'est que, outre notre marque, notre objectif, c'est d'intégrer les industriels. Donc, les grands industriels pourront proposer des produits sans sucre à base de Yacon. Et le dernier axe important, c'est qu'il va être bientôt made in France. Et ça, pour le coup, personne ne l'a encore fait.
Et alors, vous dites, j'ai juste une question, vous dites que c'est comme du miel. En tout cas, le goût se rapproche du miel. Est-ce que c'est aussi sucré que le miel ou c'est radicalement différent?
Ça a un goût très sucré comme le miel. Après, le Yacon reste quand même assez singulier en termes de goût, mais un petit goût fruité, mais très gourmand comme le miel, en fait.
D'accord.
Est-ce que les enfants aiment bien?
Les enfants adorent. D'accord. Et justement, c'est l'objectif aussi, peut-être à la suite. En 2023, on aimerait créer une gamme pour les bébés et pour les enfants.
Eric, qu'as-tu pensé du pitch de Raphaëlla?
Bon, comme d'habitude, Fred nous a donné la solution. Le pitch était bon. T'es bonne. T'as une belle énergie, une belle voix, une belle présence. Tout de suite. T'avais un petit problème de... T'étais un peu timide, c'est-à-dire on sentait que t'avais un peu appris par cœur et tu nous disais le truc et t'étais pas dedans. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé que les questions-réponses après ont été plus intéressantes. Mais c'est surtout la stratégie du pitch que je voudrais interroger. Tu commences par, à 8 ans, un enfant a plus de sucre dans le sang que ses grands-parents. Je me dis waouh. Et puis, au fur et à mesure, je cherchais en fait ce qui faisait la différence. Et je me disais, mais pourquoi je vais acheter du Yacon plutôt qu'un autre? Et bam, notre Fred National, il te pose la question, il te dit, mais est-ce que c'est bon? Et donc je pense que la stratégie narrative n'était pas la bonne, même si le produit est excellent, et ça a quand même réussi, j'ai envie de le goûter. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat qui est déjà là, tu vas t'adresser à tous les gens finalement. Moi je crois que ta cible c'est tous les déçus, de marques que je ne vais pas citer à cet écran, et que tous ces déçus, ils vont venir à toi parce que, comme Fred, ils se disent, je sais que le sucre est un poison, et je sais qu'il faudrait que je fasse autre chose, mais, Fred, est-ce que c'est bon? Et je pense que c'est ça l'histoire que t'aurais dû nous raconter dans ton pitch. C'est-à-dire que t'arrives après une première bataille, peut-être un peu perdue par les autres, et toi, tu vas la gagner parce que ton produit, il est meilleur. Et je pense que c'était ça qui était le message central, parce que moi c'est ça qui fait que j'ai envie d'essayer, c'est grâce à sa question et à tes réponses qui sont venues après. J'en discutais avec ma mère, que j'embrasse au passage, et qui me disait, mais le c'est dégueulasse, c'est pas bon. Et je lui ai dit, mais il y a peut-être d'autres solutions. Elle m'a dit, non, j'ai tout essayé. À 20 ans, elle a essayé Yacon. Et je pense que grâce à toi, elle va enfin avoir un substitut au sucre.
J'espère aussi.
On est d'accord.
Merci beaucoup, Raphaëlla, fondatrice de Yacon & Co.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, Raphaëlla.
On suivra ça, évidemment, de près dans Les Pionniers. Allez, on accueille notre deuxième pitcheuse du jour, Manon Le Padelec, la fondatrice d'Isidore. Bonjour, Manon. Isidore, c'est une plateforme de vente de meubles, d'objets de décoration et même d'électroménager de seconde main. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Frédéric. Et ensuite, on va débriefer tout ça. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
Donc, comme 9 Français sur 10, vous avez déjà dû acheter de la seconde main. Donc on est en effet face à un marché qui est en pleine effervescence et une vraie tendance de consommation, et c'est pas prêt de s'arrêter quand on voit le contexte à la fois écologique et économique actuel. Il s'avère que ces achats-là ne sont pas encore le premier réflexe, et principalement dans le milieu de l'ameublement, et c'est justement tout le challenge d'Isidore. Donc on a créé cette première marketplace de mobilier, d'électroménager et de décoration de seconde main, avec justement pour objectif de rendre cet achat aussi simple et aussi agréable que le neuf. Pour ce faire, on a intégré du coup des fonctionnalités, on livre partout en France, on a un vrai SAV, ce qui n'est pas peu. Derrière, on sélectionne chacun des produits. L'idée, c'est que ce soit que des produits de marque, ça rassure. Et on travaille aussi actuellement sur l'authentification de chacun des produits. Et donc du coup, ça fonctionne parce qu'on a déjà plus de 7000 meubles qui ont trouvé une seconde vie. On a 70% de nos commandes qui se font avec livraison. Et on a un panier moyen qui est en constante augmentation, preuve de la confiance qu'on nous accorde. Pour aller au-delà de ça, Isidore accompagne aussi désormais les marques d'ameublement dans leur stratégie de seconde main, parce qu'on est intimement convaincus, comme 79% des Français, qu'elles ont un rôle à jouer aussi dans ce nouveau marché, dans cette nouvelle économie. Donc on a lancé une offre récemment, on a déjà 4 grands groupes qui nous suivent, dont Gauthier et Monsieur Meuble, et l'idée du coup, c'est justement de faire de la seconde main le premier réflexe.
Merci beaucoup Manon. Fred, tes interrogations?
Oui, comment vous faites? Je crois que vous n'êtes quand même pas tout seul sur ce créneau-là. Je ne vais pas citer le nom de vos concurrents.
Il y a plusieurs concurrents. Il y a des gros concurrents qui sont très généralistes et donc du coup qui n'ont pas forcément tous les services adaptés à l'ameublement. C'est un marché qui est quand même spécifique avec des objets qui sont volumineux, parfois un panier d'achat aussi qui est très important. Donc pour ces acteurs généralistes, on se différencie via les services qu'on apporte à côté. Il y a d'autres acteurs qui, eux, sont sur d'autres types de produits, plutôt brocantes ou antiquités. Et nous, justement, le parti pris, c'est de se rattacher à des meubles de marque, parce que derrière, ça apporte aussi de la réassurance. On sait ce qu'on achète, parce qu'on connaît déjà forcément ces marques.
Et donc, vous dites que 9 Français sur 10 ont déjà utilisé de la seconde main, mais pas tellement sur les meubles, alors qu'en fait, moi j'ai l'impression justement que les grandes plateformes, on peut, enfin, si je prends Le Bon Coin, typiquement, les meubles en seconde main, c'est massif chez eux.
C'est massif chez eux, c'est 57% des Français qui ont déjà acheté un meuble de seconde main. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que le marché de la seconde main sur l'ameublement, c'est encore qu'un quart de celui du neuf, parce que justement, il y a encore ces freins qui existent aujourd'hui et qu'on veut lever grâce, entre autres, à la livraison.
D'accord. Mais ça, alors, je vais citer notre marque, mais Celency fait la livraison aussi.
Oui, mais eux, ils sont vraiment sur des meubles antiquités brocantes qu'on ne trouve
d'accord.
pas du tout
alors
sur Isidore.
Trouvez votre voie entre les gros. Très bien. Est-ce que ça fait 4 ans que vous êtes créé. Est-ce que vous arrivez à une forme de rentabilité? Comment vous avez fait jusqu'ici financièrement pour garder l'équilibre?
Alors aujourd'hui, en fait, on travaille principalement sur le produit avant de travailler sur la rentabilité. On a un business model qu'on travaille au fur et à mesure et qui est en train de se développer avec les marques qu'on accompagne aujourd'hui. Et du coup, sur la partie financement, on a déjà levé des fonds auprès de Business Angel.
Eric, qu'as-tu pensé du pitch de Manon sur le fond, la forme?
Alors, sur la forme, t'étais un peu timide, t'avais un peu peur de prendre la parole, ça se sentait, c'est une question d'habitude. Et puis en fait, ça s'est décanté, puis ça s'est amélioré quand on t'a posé des questions, parce que t'étais plus sur ton chemin de ce que t'avais appris et de ce que tu voulais dire, tu te sentais plus naturel. Et là, j'ai senti la pêche, le punch, toujours avec cette douceur qui te caractérise, mais c'était déjà mieux, et quand tu reverras l'émission, c'est là-dessus que tu dois capitaliser. Douceur, ok, parce que c'est toi, mais mets un petit peu plus de pêche quand même. Ok, je m'interroge, et là, toujours pareil, je me sers des questions de mon camarade Fred pour réfléchir. Je m'interroge sur le scénario de ton pitch. Mm-hmm. Tu dis 9 personnes sur 10, comme vous sûrement, avaient déjà acheté des meubles d'occasion. Il s'avère que moi, j'étais pas dedans. J'ai acheté des vêtements, mais pas des meubles. Donc, c'est un peu risqué de partir comme ça, et d'ailleurs il te l'a fait remarquer. Et puis tu arrives après une première bataille, tu vas être dans la suivante, et je pense que tu as peut-être intérêt à dire ce que tu es de différent de ce qui existe déjà.
Okay.
Et ce qui m'a marqué, c'est ce que tu as dit après, c'est que 25%, il y a seulement 25% des gens qui aujourd'hui ont acheté ce qui semble pourtant être une évidence, des meubles de seconde main. Et moi, je pense que c'est grâce à toi qu'on va passer à 75%. Parce que tu as trouvé la solution pour te différencier, parce que par exemple tu es sur la marque, parce que tu as des services en plus. Et du coup, je pense que c'est la stratégie de ton pitch qui peut-être était un peu à côté.
Ok.
Pour que tu imposes, t'as vu, pardon, tout de suite, il a eu deux références en tête, qui étaient là avant, qu'on levait beaucoup d'argent, etc. Donc, il va falloir que tu te battes contre cette notoriété. Et pour te battre contre cette notoriété, il faut que tu te battes avec tes armes de différenciation. Ça, c'est un premier point. Et je termine juste en conclusion, je m'interroge aussi sur, tu parles des marques, et je me dis, est-ce que c'est pas eux ton principal, tes principaux clients? En vérité, t'as besoin d'eux.
En tout cas, c'est l'axe de développement qu'on prend. On part vraiment du principe que les consommateurs les attendent et que justement, ils ont leur rôle à jouer, qu'on peut capitaliser là-dessus et du coup, qu'ils peuvent profiter de notre expertise de la seconde main pour justement qu'on allie aussi notre force, qui est une marketplace qui puisse leur servir à tous.
Alors du coup, je me demande, tu es en B2B2C donc je me demande s'il fallait faire un pitch sur le C ou sur le B, c'est-à-dire est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace de parler de ces marques qui ont besoin d'avoir une solution pour leurs meubles de seconde main et d'être la référence de ces marques-là. Et là, soudain, Fred, t'aurais pas parlé de du Bon Coin ou de Celency. Non.
Ouais, c'est vrai.
T'aurais été la nouvelle marque. Donc, t'aurais eu ton leadership à toi. Voilà, ça vaut le coup d'y réfléchir.
Ouais.
D'ailleurs, en termes de stratégie, effectivement, c'est ce que font certains autres en seconde main, mais sur les habits.
Exactement.
Ça se développe beaucoup.
Oui.
Avec Redev et...
Exactement, sachant que sur le prêt-à-porter, il n'y a pas cette histoire de logistique. Donc là, sur l'ameublement, les produits ne peuvent pas forcément être déplacés. D'où l'importance aussi de créer une boutique en ligne. Et c'est ce qu'on propose, en fait, de capitaliser sur les annonces qu'on a, qu'elles aussi puissent communiquer sur leur boutique de seconde main pour faire grossir leur offre.
Grâce à cela, vous ramenez justement la confiance dans l'achat de seconde main grâce à la marque. Ce qui, effectivement, sur les plateformes généralistes, n'est pas le cas.
Et l'authentification des produits dont je parlais, c'est grâce aussi à ces marques-là qui vont jouer un rôle sur ce marché-là.
Et là, ça fonctionne, c'est sûr. Merci beaucoup. Manon Le Padelec, fondatrice d'Isidore. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous voulez également candidater pour le pitch, c'est possible et c'est très simple. Le QR code s'affiche sur votre écran. Vous avez aussi l'adresse lespionniers@bfmbusiness.fr ou la page des pionniers sur le site de BFM Business. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission des pionniers. C'est Fred vous répond.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions chaque semaine. Je suis là pour répondre aux questions que vous pouvez nous transmettre directement sur votre activité, sur les questions que vous vous posez quand vous devez créer une équipe, quand vous devez développer un produit, quand vous devez potentiellement vous étendre à l'international. Eh bien, je suis là pour y répondre. Avec Stéphanie qui
Exactement.
Va donc transmettre vos questions cette semaine.
Absolument, et pour poser vos questions, c'est très simple, ça se passe par écrit, en format vidéo aussi, vous pouvez tout nous envoyer via l'adresse mail lespionniers@bfmbusiness.fr, il y a un QR code aussi qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question d'Alice. Quand on fonde une entreprise, comment bien gérer son temps et ne pas se laisser submerger par les tâches?
Alors, plusieurs dimensions, plusieurs réponses. La première, c'est qu'il ne faut pas forcément réagir tout de suite en termes du temps que les choses prennent, mais en termes de la valeur nécessaire à créer pour l'entreprise. Typiquement, il y a des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais qui ont justement beaucoup de valeur, et ça apparaît très important. C'est typiquement quand il faut aller recruter ses premiers collaborateurs. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de valeur, donc il faut le faire. Il ne faut pas se retrouver à aller faire que des choses parce qu'on manque de temps, qui ne prennent pas de temps. Donc c'est ça le piège dans lequel on peut tomber, c'est d'aller ne faire que des petites choses et pas s'occuper du très important. Et alors justement, à propos de l'important, il faut apprendre à transformer l'important en urgent. Et pour ça, j'ai une petite recette. La petite recette, c'est extrêmement simple. C'est qu'on se fait prendre notre agenda, généralement, par l'urgent. Parce que par définition, l'urgent, il veut prendre le temps tout de suite. Et donc, ça peut nous écarter du traitement de l'important. Et pour rendre l'important urgent, en fait, il faut simplement donner du temps à l'important dans l'agenda. comme ça, entre deux rendez-vous ou entre deux choses urgentes qu'on a à faire, eh bien, il y a une chose importante qui se retrouve coincée dans l'agenda et pour laquelle on a réservé du temps. Et donc, on va pouvoir s'en occuper. Donc, c'est une petite alchimie qui transforme l'important en urgent et qui nous permet justement de traiter l'important quand on l'a identifié avant. Et puis enfin, dernière chose, il faut apprendre à déléguer. Déléguer, ça veut dire rester responsable, mais en fait, donner une grosse part de choses à faire à ses collaborateurs et surtout ne pas essayer de faire des petits bouts soi-même. Quand on délègue, on délègue tout d'un coup parce que ça motive beaucoup plus une personne d'avoir un projet un peu complet à gérer que de gérer des petits bouts.
Bien sûr. On enchaîne avec la question de Lorenzo. À quoi ça sert d'établir des principes d'entreprise ?
Ça sert un petit peu comme, on pourrait dire, un moteur sert à une voiture. C'est-à-dire que ça sert à faire avancer simplement avec volonté l'entreprise. Quand on définit des principes, on définit la culture, on définit des valeurs, eh bien, ça permet à tout le monde d'agir déjà de manière assez cohérente d'un bout à l'autre de l'entreprise, c'est-à-dire avoir des actions qui peuvent être prises à différents endroits, mais qui vont toutes dans une même direction. Donc, ça permet de ne pas se retrouver avec des agissements en étoile qui tiraillent la société de tous les côtés. Et donc, ça nous fait aller plus droit. Il y a une chose très importante, c'est que quand on définit des valeurs ou des principes, il faut qu'ils aient une application dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit juste des phrases sur les murs pour lesquelles il n'y a pas d'application. Et donc, typiquement, si je regarde chez Blablacar comment on a fait, on a une valeur qui dit « share more, learn more », donc plus on partage, plus on apprend, ce qui est une très belle valeur de construction de projets en équipe et puis surtout d'apprentissage collectif. Et bien, elle se traduit par le fait qu'une fois tous les 15 jours, on a une réunion tous ensemble où il y a un département qui présente ce qu'il a fait et qui présente ce qu'il va faire un petit peu plus tard à tout le reste de la société. Ça permet d'identifier déjà qui fait quoi, ça permet d'amener aussi de la responsabilisation et puis beaucoup de respect entre les équipes parce qu'on partage, cette connaissance que chacun est en train d'apprendre. Donc voilà, plus on partage, plus on apprend. Il y a un autre de nos principes qui s'appelle Dream, Decide, Deliver. Alors on les met en anglais, je précise, parce que chez Blablacar, il y a 45 nationalités. Mmh. C'est une société complètement internationale et donc en fait, la langue de communication, tous ensemble, est l'anglais. Mais donc c'est Dream, Decide, Deliver, c'est on rêve, on décide et puis on livre. Et ça nous sert à mettre un petit label sur les réunions, c'est-à-dire que quand on est en réunion rêve, on a le droit de rêver, d'imaginer plein de choses. Quand on est en réunion, on décide, eh bien on décide entre les options. Quand on est en réunion, on livre. C'est plus le moment de rêver, en fait, c'est le moment de livrer. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus clair sur les intentions d'une réunion et de la rendre plus efficace, parce que quand vous êtes sur une réunion qui est censée être une réunion de livraison et que quelqu'un repart en mode rêve, en disant « mais on aurait pu faire comme ci, comme ça, comme ça », on dit « attends, on a déjà eu la réunion rêve, là, maintenant, on livre », et ça permet de faire avancer la société. Donc, il faut traduire ces principes et ces valeurs en action sur le terrain que l'on fait tous ensemble en équipe.
Autant de bonnes recettes que vous pouvez retrouver dans le livre de Fred, Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. C'est en librairie et ça ferait un très bon cadeau de Noël d'ailleurs.
Ah, tout à fait.
À noter. C'est la fin de cette émission. Fred, on se retrouve la semaine prochaine ?
Oui, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez nous suggérer des pionniers pour le tête-à-tête ou pour le pitch ou venir vous-même peut-être pitcher ou bien si vous voulez me poser des questions, eh bien vous utilisez le QR code ou bien le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business. À très vite.
Bon week-end.
Bon week-end.
Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.